Je vous invite, si vous avez une Bible, à l'ouvrir à Matthieu chapitre 10 et on va commencer au verset 40 et voir quelques enseignements de Jésus donc dans Matthieu chapitre 10, verset 40 et suivant. Pour rappel, nous avons passé plusieurs semaines à voir l'enseignement que Jésus donne aux 12 apôtres à qui il a confié une mission d'aller prêcher la bonne nouvelle de la venue du royaume, et que Jésus a donné cet enseignement pour les 12, mais qu'il y a aussi des choses qui s'appliquent à la mission des chrétiens et de l'Église à travers les âges. Et les dernières choses que nous avons vues, c'était l'avertissement qu'avec la prédication et l'annonce de la bonne nouvelle, il y aurait aussi une résistance, un rejet, une persécution et même une division au sein de la famille. Et donc nous arrivons maintenant aux dernières paroles, le dernier enseignement de Jésus pour l'envoi des 12, et c'est les versets 40, donc Matthieu 10, 40, jusqu'au chapitre 11, verset 1, que je vais lire maintenant. Qui vous reçoit, me reçoit. Et qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Qui reçoit un prophète en qualité de prophète, obtiendra une récompense de prophète. Et qui reçoit un juste en qualité de juste, obtiendra une récompense de juste. Quiconque donnera à boire même un seul verre d'eau froide à l'un de ses petits en qualité de disciple, en vérité, je vous le dis, il ne perdra point sa récompense. Lorsque Jésus eut achevé de donner ses ordres à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans leur ville. Ici, j'aimerais juste qu'on remarque trois choses importantes dans l'enseignement de Jésus qui se réfèrent déjà à ce que Jésus a enseigné au sujet de l'envoi, mais qu'il vaut la peine de remarquer, d'appuyer et de méditer pour nous. La première chose très rapidement que nous voyons, c'est comme au début de l'enseignement de Jésus dans ce chapitre, ici Jésus s'identifie aux apôtres, aux disciples qui sont envoyés. Il dit au verset 40, qui vous reçoit, me reçoit. Et au début de l'envoi, Jésus avait dit deux choses aux disciples. La première chose, c'est qu'ils allaient recevoir le pouvoir de faire les mêmes miracles que Jésus avait fait. Et dans l'énumération des miracles que les disciples vont faire, nous voyons que c'est identique, que ça ressemble exactement à ce que Jésus est en train de faire dans ses miracles en Galilée. Mais la deuxième chose, c'est qu'ils vont prêcher exactement le même message que Jésus, c'est-à-dire qu'il fallait se préparer pour la venue du royaume. Le royaume des cieux est proche et il faut se repentir, comme nous le voyons dans Luc qui décrit l'activité missionnaire. Et donc là, nous voyons un peu dans la pratique que les apôtres font exactement comme Jésus. Ils sont ses représentants. Et parce qu'ils ont reçu le pouvoir de Jésus, ils ont Jésus avec eux. Mais ici, le lien est encore plus fort, n'est-ce pas? Et ça forme un peu une inclusion. Il commence et il termine en disant, je serai avec vous dans votre mission. Parce que non seulement ils vont faire les mêmes miracles que Jésus, non seulement ils vont dire les mêmes paroles que Jésus, mais Jésus dit, si vous reçoit, on est en fait en train de me recevoir. Les gens ne seront pas réellement en train de recevoir les apôtres ou les disciples, ils sont en train de recevoir Jésus lui-même dans leur ministère. Et si on accepte Jésus, qu'est-ce que Jésus dit? Bon, on accepte plus que juste Jésus, l'homme, n'est-ce pas? On accepte Dieu le Père aussi. Et Jésus ici, je crois que c'est des paroles qui rassurent les disciples, parce qu'il vient de souligner une attente de danger, de rejet, de division, de persécution, même le risque de perdre sa propre vie. Mais là, ils savent que Jésus sera avec eux tout au long de cette mission. Et si c'est vrai qu'il faut quand même souligner, ce message s'applique tout particulièrement aux 12 apôtres ici. Cette promesse de Jésus qui dit « Je serai avec vous », en particulier dans un contexte de mission et d'évangélisation et de partir pour toucher le monde avec l'amour de Christ, cette promesse continue. Même les dernières paroles de l'évangile de Matthieu, c'est quoi? Bon, c'est la promesse de Jésus que nous lisons dans Matthieu 28, verset 20, où Jésus dit « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et Jésus donne cette promesse dans un contexte de persécution. « Je serai avec vous. » Et puisque ceux qui reçoivent ou rejettent les apôtres sont en train de recevoir et de rejeter Jésus lui-même, cela signifie que Jésus est présent dans cette mission, qu'il est présent dans l'évangélisation. Et nous pouvons avoir la conviction que malgré les épreuves, le rejet, les difficultés, les souffrances et les peines que on peut rencontrer à cause de Christ, pas juste les souffrances normales de la vie, mais à travers toutes ces choses, nous avons l'assurance que Christ ne nous abandonne pas. Les luttes, les difficultés de la vie, les persécutions, ce n'est pas le signe de l'absence de Christ. Au contraire, il dit qu'il est présent dans ces choses-là. Et donc ça, c'est la première chose. Jésus est pleinement présent dans la mission des apôtres et il continue à l'être dans la mission de l'Église. Mais l'autre chose qu'il nous faut souligner, c'est que Jésus donne une autorité aux apôtres. Et de nouveau, ça on l'a vu au début de l'envoi, il leur donne autorité pour faire les miracles et pour enseigner. Mais ici aussi, quand les apôtres parlent, ils ne parlent pas de leur propre autorité. Ils ne parlent pas de leurs propres idées ou leurs propres messages. Mais c'est l'autorité et le message de Christ lui-même. Et l'attitude qu'ont les gens en réaction aux apôtres, même s'ils ne sont pas parfaits, même si ce sont des gens imparfaits qui luttent avec le péché, avec le doute parfois, mais la réaction des gens à leur message, c'est une réaction à Christ. Et c'est parce que Christ leur a délégué une autorité qui est là. Au verset 40, de nouveau, « Qui vous reçoit, me reçoit, et qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. » Il faut se rappeler que l'autorité apostolique, l'autorité des apôtres, dépend de leur fidélité au message. D'accord? S'ils commencent à changer ce que Jésus a dit, s'ils commencent à chercher leur propre bien en enseignant, bon là, ils vont perdre l'autorité que Jésus leur a donnée. Il l'enseigne dans les paraboles, mais j'aime ce que Paul dit à ce sujet. Il dit, même si nous-mêmes, ou si un ange du ciel vous annonçait un évangile différent de celui que nous avons annoncé, qu'il soit anathème, d'accord, qu'il soit maudit. Ça, c'est Galates chapitre 1, verset 8. Leur autorité dépend de leur fidélité au message. Ça, il faut le souligner. Mais l'autorité est quand même présente et importante. Nous ne pouvons pas dire, par conséquent, je veux Jésus, mais je veux pas les apôtres. Okay. Ou je veux les évangiles, mais je veux pas les épîtres. Bon, premièrement, il y a un problème historique, d'accord? Parce que comment est-ce qu'on a les évangiles? C'est à travers le témoignage des apôtres. Donc, ça, c'est déjà un problème. Mais je crois qu'il y a quelque chose qui est plus important, et c'est les paroles de Jésus lui-même. Si on accepte Jésus et son autorité, nous allons accepter qu'il a donné autorité aux apôtres pour continuer sa mission. Juste deux passages dans Luc et Jean qui parlent de cette même idée. Dans Luc 10, verset 16, Jésus dit « Celui qui vous écoute, en parlant aux apôtres, celui qui vous écoute, m'écoute, et celui qui vous rejette, me rejette, et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. » Et dans Jean 13, verset 20, « en vérité, je vous le dis, qui reçoit celui que j'aurai envoyé, me reçoit, et qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. » Donc, c'était vraiment un enseignement important pour Jésus, qu'on reçoive ses envoyés, ce que lui, il avait désigné, pour porter son message et son autorité et l'Église dans le monde, qui soit reconnue comme venant de Christ. Et notre réponse, ou la réponse des gens à leur message, c'était une réponse à Christ et à Dieu. Et par conséquent, de rejeter les apôtres équivaut à refuser les paroles de Christ, de refuser Christ lui-même, de refuser Dieu lui-même. Et de refuser aussi à Jésus le droit de déléguer son autorité, ce qu'il a fait. Si on prend Jésus au sérieux, si on prend son message au sérieux, il nous faut reconnaître qu'on ne peut pas avoir la foi en Christ sans aussi reconnaître et se soumettre à l'autorité des apôtres qu'il a désignés. Paul écrira dans Éphésiens 2, verset 20, ceci, « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre de l'angle. » Et d'un point de vue historique, une des raisons que nous avons un Nouveau Testament, et pas juste l'Ancien Testament, c'est pas parce que Dieu a fait tomber un livre du ciel qu'il fallait coller à la fin donc de la Bible hébraïque. D'accord? C'est parce que l'Église a reconnu l'autorité des apôtres. Et quand les apôtres n'étaient plus là, et même pendant leur vie, ce qu'ils ont écrit et ce qu'ils ont enseigné a été conservé par l'Église. Et ça, c'est le Nouveau Testament. C'est-à-dire, c'est l'autorité des apôtres qui continue jusqu'à aujourd'hui. Et nous prenons leurs écrits au sérieux et nous les lisons parce que nous nous soumettons à Christ. D'accord? C'est pas juste parce que ce sont des hommes, mais parce que nous voulons prendre Christ au sérieux. Et ça, c'est important. Après, il y a toutes sortes d'autres questions qu'on peut se poser, n'est-ce pas? Cette idée de succession apostolique. Bon, Jésus a donné cette autorité aux apôtres. Est-ce qu'eux, ils ont le droit de le donner à ceux qui viennent après? Et on le trouve en tout cas pas dans le Nouveau Testament. Hein. C'est pas quelque chose qui est présent. Mais en tout cas, nous reconnaissons que les douze, et Paul aussi, qui a été nommé par Jésus, ils ont cette autorité. Et si nous suivons Christ, nous les écoutons aussi. Bon, on voit quoi? Jésus qui promet sa présence dans le ministère et dans la vie des apôtres. Il sera présent en eux. Il donne aussi une autorité que les gens ont besoin de reconnaître. Mais la troisième chose, peut-être la plus importante, c'est qu'il y a une promesse de récompense à ceux qui accueillent les disciples de Christ. Au verset 41 à 43, nous avons trois fois Jésus qui dit une récompense. D'accord? Il y a une récompense qui vient. Et ça, c'est peut-être la clé. C'est peut-être le plus important dans ce que Jésus dit ici. Il donne trois exemples d'accueil. Et le mot grec d'accueil ici, c'est vraiment l'idée d'une hospitalité pratique qui est mise en place. On va recevoir des prophètes en tant que prophètes. Okay? On va recevoir des justes en tant que des justes. Et on va aussi prendre soin des plus petits, des disciples. Et à chaque fois, pour celui qui reçoit le prophète, pour celui qui reçoit le juste, et celui qui prend soin du plus petit des disciples, il y a une promesse de récompense pour ces choses. Les apôtres ici, et plus tard l'Église, partent en mission. Okay. Ils sont en train d'aller dans le monde. Ici, ils n'ont même pas le droit de prendre d'équipement avec eux. Okay. Ils ne peuvent pas prendre leur sac de couchage, ils ne peuvent pas prendre de la nourriture ou de l'argent. Ils partent et ils vont dépendre de l'hospitalité des gens. Et Jésus avertit, il dit, vous serez mal accueillis, vous serez rejetés, les gens vont résister. Et peut-être il y a une certaine crainte qui est là, même sans doute. Mais Jésus dit aussi, il y aura des gens qui vont vous accueillir. Et la bonne nouvelle, c'est que ces gens qui sont prêts à accueillir et à prendre soin des persécutés, qui viennent de la part de Christ, bon, Dieu va prendre soin d'eux. Dieu les voit, Dieu reconnaît le bien qu'ils font, et il va aussi les récompenser. Et c'est intéressant, quand on regarde cette liste des trois personnes, on a les prophètes, les justes et les plus petits, qui sont quand même des disciples, que Jésus commence en donnant des exemples d'accueil de gens assez impressionnants, n'est-ce pas? Bon, qui ne voudrait pas accueillir un prophète chez lui, hein? On dit « Oh, bienvenue prophète, je suis content que tu sois là avec moi, mange avec moi, etc. » Ou d'accueillir un juste, c'est-à-dire quelqu'un qui est reconnu comme bon. Okay? De nouveau, un disciple, ici on parle quand même des disciples de Jésus, mais c'est dire, ah bon, accueillir un juste, que c'est super. Mais il donne ensuite ce troisième exemple qui est un peu plus surprenant. Quand il dit, quiconque donnera à boire à même d'un seul verre d'eau froide à l'un des plus petits en qualité de disciple, lui aussi, il aura une récompense. Et ce que Jésus est en train de dire ici, c'est que c'est pas juste d'accueillir les gens importants, okay, des apôtres, des prophètes, des justes. C'est aussi l'accueil et le soin qu'on a pour les moins importants. Qui a de la valeur aux yeux de Dieu. Ces petites choses sont importantes pour lui. Jésus commence avec les choses les plus impressionnantes, mais il termine avec la chose la plus insignifiante qu'on peut faire pour quelqu'un. Voilà un verre d'eau fraîche. Bon, ça c'est vraiment de toutes les choses qu'on peut faire pour quelqu'un, donner un verre d'eau, c'est utile, mais c'est vraiment pas grand-chose. Et c'est pour les gens qui sont les plus petits. Et là, Jésus, je crois pas qu'il est en train de rabaisser les gens, mais il est en train de dire la personne la moins importante parmi les disciples, même le don le moins important pour cette personne, qui est un verre d'eau, bon, Dieu ne l'oublie pas. Dieu voit cela, il reconnaît cela, et il récompense cela. L'application pour nous, c'est pas de dire, bon, Jésus veut qu'on donne le minimum possible aux gens. Okay. Ah, il dit, je veux juste un verre d'eau et c'est bon, alors je donne 5 centimes à quelqu'un qui en a besoin, mais je le fais au nom de Jésus, c'est bon. Jésus ne fait pas appel au minimalisme ici. Mais plutôt, Jésus est en train de rappeler que Dieu voit les gens les moins importants et qu'ils ont de la valeur à ses yeux. Et il rappelle aussi que Dieu voit ceux qui ont peu, mais qui donnent du peu qu'ils ont, et que ces gens-là ont de la valeur. Il n'est pas en train de dire, si vous avez beaucoup de biens, de faire le minimum, ça c'est égal pour Dieu. Mais plutôt en train de dire, même les choses les plus petites qu'on fait pour Dieu et d'un cœur sincère, ça a de la valeur pour lui. Vous savez, dans les gestes pour les moindres, pour les moins importants, des disciples, Jésus dit qu'il est tout particulièrement présent. Dans Matthieu 25, verset 40, l'enseignement, Jésus met en scène le jugement du roi devant les peuples et dit, le roi répondra, en vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous avez fait des bonnes choses à l'un des plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Et de prendre soin des plus petits, des moins impressionnants des disciples, ça a énormément de valeur aux yeux de Christ. Tellement de valeur qu'il dit, en fait, c'est s'occuper de moi. Une des bonnes nouvelles ici, c'est que nous savons que Dieu prend au sérieux le mal que nous faisons. Jésus a parfois besoin de nous rappeler qu'il prend aussi au sérieux le bien que nous faisons. Jésus prend au sérieux, et Dieu prend au sérieux, le bien qu'on fait aux disciples, l'accueil qu'on porte à ceux qui ont ce message. Et il dit, vous ne perdrez pas votre récompense. Dieu prend le bien vraiment au sérieux. Et c'est une bonne nouvelle. Cela devrait nous motiver et nous encourager à faire bon accueil aux autres, à prendre soin les uns des autres et à être généreux. Et une des choses que nous pouvons appliquer encore aujourd'hui, parce que c'est pas comme si l'appel à faire bon accueil et à prendre soin des gens s'arrête avec les 12 apôtres, n'est-ce pas? C'est vraiment un besoin que tous les chrétiens de tous les âges ont à mettre en pratique. C'est que nous sommes appelés à aider les serviteurs et les disciples de Christ. En tant qu'Église, mais aussi en tant qu'individu, d'utiliser nos biens pour prendre soin de ceux qui prêchent l'Évangile, de ceux qui sont en mission, de ceux qui sont en train de servir Dieu de leur vie, et d'utiliser les biens que nous avons pour aider cela. Je crois que Dieu attend vraiment cela de nous, que nous utilisions les biens que nous avons pour les disciples, pour aussi la proclamation du message de Christ. Mais l'autre application, peut-être au sein de l'Assemblée même, c'est que nous avons une responsabilité de faire bon accueil et de prendre soin les uns des autres. De nous aider, d'être une communauté où nous sommes hospitaliers les uns envers les autres, où nous nous aidons quand il y a quelqu'un qui est dans le besoin. Et le critère, ce n'est pas la cordialité ou la bonne entente. Même si on désire une bonne entente, une convivialité entre les membres du corps de Christ. Ça, c'est certain. Mais ce n'est pas parce que je m'entends bien avec X ou Y que je vais l'inviter manger. C'est pas parce que c'est facile pour moi d'accueillir des gens ou d'aider quelqu'un que je le fais. Mais pourquoi est-ce qu'on le fait, dit Jésus? Bon, c'est à cause de moi, en qualité de disciple. C'est-à-dire, on reconnaît le maître commun, qui est Jésus, et à cause de cela, on se fait bon accueil, on s'aide, on prend soin les uns des autres. Et donc, l'hospitalité dans l'Église sera un peu différente de celle dans le monde. Dans le monde, c'est j'invite quelqu'un et puis cette personne doit m'inviter en retour et puis on peut faire l'aller-retour. Hein. Même avec les mamans et les goûters, on alterne chaque semaine qui va chez qui. C'est pas comme ça dans l'Église. Parce que Christ donne avec libéralité et nous désirons donner aux autres comme cela. Et dans la société, c'est normal, c'est notre tendance, on va inviter qui? Bon, ceux avec qui on s'entend bien. Ceux avec qui on veut être plus proche. Ceux qui sont aussi les plus importants dans une communauté. Mais Jésus dit, c'est pas comme ça qu'on va faire. Non, on va inviter même ceux qui sont moins importants. Même ceux qui, peut-être, avec qui on s'entend moins bien, ou on a moins d'affinité. Et la raison, c'est parce que nous ne le faisons pas juste pour nous-mêmes ou pour l'autre, mais parce que nous reconnaissons Christ, qui est le maître, et que nous sommes ses disciples. Et si nous le faisons pour Christ, bon, Jésus dit, vous le faites pour moi, et vous ne perdez pas votre récompense. Cela n'est pas pour dire si je vous invite, c'est parce que je pense que vous êtes les plus petits des disciples. Je ne m'entends pas avec vous. Mais, vous savez, cela ne doit pas être un obstacle à notre hospitalité et à l'ouverture à nos frères et sœurs dans la foi. Bon, Jésus termine donc cet envoi, et il y a trois encouragements pour les apôtres, trois encouragements pour nous. Je serai avec vous. Christ est présent dans la mission. Christ est présent dans nos vies lorsque nous le représentons au monde et les uns avec les autres. Et vivant avec cette perspective qui dit « Jésus est présent dans ma vie lorsque je le sers ». Et ayant une confiance, parce que si Christ est présent, nous savons que c'est lui qui gère la situation, c'est lui qui prend soin de nous, c'est lui qui est à l'œuvre. Il dit aussi qu'il envoie ses apôtres avec une autorité et tâchant d'être des personnes qui écoutent l'autorité des paroles de Dieu dans les Écritures et qui essaie de mettre ces choses en pratique. Et finalement, il dit, avec cette promesse d'une récompense, de se faire bon accueil les uns aux autres et de soutenir ceux qui sont en train de prêcher l'Évangile à ceux qui ne l'ont pas entendu. Et notre désir, c'est de faire cela, que cela fasse partie de notre ADN de disciples et d'Église. Et si nous faisons cela, nous croyons non seulement à une récompense, mais que cela va aider le royaume de Dieu à grandir et l'amour de Dieu d'être connu dans le cœur et dans la vie de plus de personnes.